corps.
Tiens.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, comment ça va Jérémy ?
Ça va très bien, c'est la gloomy season, on adore, voilà, la vraie.
Ah bah totalement, totalement. Mais c'est l'occasion rêvée de parler d'un grand classique, d'un grand auteur horrifique qu'on adore tous les deux, Junji Ito, à l'occasion d'une série animée que nous attendions depuis 5 ans et... L'attente a-t-elle été récompensée ? Oui et non. J'ai envie de te dire. Oui et non, ouais. Quel objet singulier et bizarre et tellement emblématique de plein d'aspects de l'époque, au niveau artistique, au niveau production, au niveau démerdez-vous avec cette merde. Uzumaki, qui vient d'achever la diffusion de ses 4 épisodes, tentative d'adaptation, voilà, ça met un petit mot un peu sur le ton, ce qui va se passer.
Oui, tout à fait.
Donc du manga qui a été traduit en français sous le titre Spirale de Junji Ito, œuvre fondatrice de ce mangaka, moi qui m'a terrifié. J'ai relu l'intégrale, alors édition de 2002 chez Tonkam. C'est terrifiant, Spirale. Toi, le manga, tu as découvert quand, chronologiquement ?
J'ai découvert Junji Ito et Spirale en même temps. Et je pense que j'étais au lycée. C'était le moment où je pense, comme beaucoup d'adolescents, j'étais obsédé par le Japon. Voilà, c'est très cliché, mais on est tous passés par là. Sauf que je ne trouvais pas mon bonheur dans les mangas. Je ne trouvais pas de shonen ou de choses qui me parlaient. Et je ne sais pas par quel miracle je tombe sur Spirale. Qui du coup, au début des années 2000, a été édité en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais acheté le premier, qu'on m'a shippé d'ailleurs après. mais j'avais vraiment beaucoup aimé, là, je m'étais vraiment dit, c'est pour moi, enfin. Mais je dois avouer que Junji Ito a un peu disparu après dans ma tête. C'est-à-dire que dans les années 2000, il a été édité, mais c'était assez... les sorties ont été quand même assez espacées, et je pense que ça n'a pas été... Je ne sais pas si ça fait grand bruit, à vrai dire, je ne saurais dire. Et en 2021, Mangetsu et Delcourt Tonkam ont décidé de tout ressortir. Alors, ressortir ce qu'ils avaient déjà sorti sous une autre forme, et ensuite de sortir tout ce qu'ils n'avaient pas pu sortir. Et ils ont commencé par Spirale, qu'ils ont sorti dans une intégrale sur laquelle je me suis jeté le jour J, puisque du coup les premières éditions étaient devenues quasi introuvables, ou à un tarif défiant la logique. Et c'est vraiment là où j'ai redécouvert Junji Ito, mais je pourrais même dire que je l'ai découvert totalement à ce moment-là. Alors Spirale, je pense que c'est pas trop risqué de dire que si on doit en lire un seul, c'est celui-là. Mmh. Bon, après, j'ai lu aussi Gio, qui est incroyable, les recueils de nouvelles. Je n'ai pas tout lu, parce que c'est vrai que du coup, le rythme de parution est assez généreux. Et c'est triste à dire, mais je n'ai pas forcément la place. Et c'est quand même des gros livres. Voilà, c'est de belles éditions, mais voilà, il faut la place quand même pour les caser. Tout ne se vaut pas, en tout cas de ce que j'ai lu. Mais Spirale, voilà, si on veut découvrir Junji Ito, je pense que sans trop de risques, c'est ce qui est le plus représentatif. Ce qui est très impressionnant quand on lit Junji Ito, c'est que... Moi, j'ai l'impression d'y voir une sorte de jonction entre Fulci pour cette minutie en fait dans le macabre et aussi dans une forme de sadisme sur les corps, même si c'est pas un sadisme, c'est pas du torture porn, mais c'est plus le fait de traiter la chair presque comme un objet qu'on aime tordre, qu'on aime travailler, et Lovecraft pour le côté horreur cosmique, le côté horreur impossible, parce que Junji Ito a vraiment cette faculté d'inventer des choses de manière spontanée, mais une spontanéité qui fait assez peur à vrai dire, parce que cet homme a l'air très gentil et très calme. Tu te dis mais il a pu trouver des trucs pareils. Mais je pense que d'ailleurs c'est très rafraîchissant de lire Junji Ito maintenant, parce qu'on a tendance à trouver, pas à tort, que le cinéma d'horreur actuel manque un peu d'imagination, et Junji Ito est quelqu'un qui sort des idées mais atroces, mais que je pense on n'aurait pas imaginé dans le plus fiévreux et brumeux des cauchemars. C'est voilà, moi, enfin, je me souviens quand j'avais lu Spirale, qui du coup est quand même découpé en plusieurs chapitres. Alors, Junji Ito est quelqu'un qui fonctionne surtout par petites histoires. C'est jamais, à part peut-être Gio ou La Déchéance d'un homme, mais c'est vrai que voilà, Spirale, c'est vrai que c'est des petits chapitres qui sont vraiment des petites histoires qui à la fin forment quelque chose de plus global. Et à chaque chapitre, je me suis dit, mais il va faire encore pire que le précédent. Pour
Et il y
atteindre
arrive.
un et il y arrive pour atteindre un niveau évidemment de délire horrifique absolument, bah je citais Lovecraft à juste titre. Et ce qui est très étonnant, c'est Junji Ito. Alors c'est pas forcément, alors je repense à La Déchéance d'un homme du coup, qui est un manga non horrifique, mais paradoxalement c'est peut-être ce qu'il a écrit de plus éprouvant, hormis peut-être celui-là et peut-être des exemples que je n'ai pas lus. Ce qui me surprend beaucoup chez Junji Ito, c'est que c'est une œuvre qui est très asexuée. Paraître curieux de dire ça, mais c'est vrai qu'en général, les Japonais, quand ils font de l'horreur, quand il y a toujours une forme de lubricité, de grivoiserie qui surgit à un moment ou à un autre. Pas que de l'horreur d'ailleurs, hein, c'est dans la registre de la comédie, n'importe quoi. Et Junji Ito, c'est pas de la pudibonderie, mais je trouve qu'il y a une forme d'asexualité qui le rapproche des contes en fait. On a vraiment l'impression de lire des contes, ou justement dans les contes de Grimm, d'Anderson, dans tout ce qu'on a l'habitude de lire, ce n'est pas le sujet. On peut y trouver un sous-texte si on veut, on peut y trouver une forme de perversité, mais on est dans un univers qui est étrangement chaste, une espèce de pureté malmenée quand même, parce que ça reste quand même très. On peut même dire aussi que c'est. Je disais Fulci, hein, on disait souvent que Fulci c'était un peu la pornographie de l'horreur. Le traitement des corps, des fluides, il y a quelque chose de très dérangé là-dedans, mais il y a un espèce de paradoxe qui est assez fascinant, que à côté, c'est presque innocent en fait, presque. Bon.
Bah, il y a une forme d'idéal romantique.
Oui,
Voilà.
bien sûr, oui.
Ça, mais ça s'arrête là. Voilà, vraiment une idéalisation de la passion amoureuse jusqu'au niveau sacrificiel. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans son œuvre aussi. Et bah, dans Spirale particulièrement, quoi. Et il y a ces notions aussi d'image, d'envie de séduction, mais qui ne se traduit jamais vraiment par du désir, effectivement, lubrique. Spirale, pour revenir sur l'histoire, c'est une petite ville de campagne, Kurozu, où petit à petit, tous les habitants vont être contaminés par une fascination maladive pour le motif de la spirale. Ça commence par des choses assez anecdotiques, assez rigolotes. D'ailleurs, l'héroïne Kirie s'en amuse, au détriment de son ami, Shuichi, dont le père est frappé par ce mal mystérieux. Et voilà, ils observent des formes de spirales sur les murs, sur des animaux, ils en cherchent dans leur propre corps aussi. Enfin, c'est ce motif qui va se décliner tout au long des petites histoires qui vont constituer le corpus de spirale, vraiment la déréliction de plus en plus galopante et incontrôlable de cette ville sous le motif de la spirale. Ça peut sembler étonnant dit comme ça, mais Junji Ito va effectivement s'emparer de cette idée très évocatrice, parce qu'il y a voilà, cette idée de motif qui se répète à l'infini, qui est hypnotique et qui vous transforme, qui vous aliène à vous-même, et il va le décliner, mais de façon géniale, très imaginative, inventive. Visuellement, c'est très frappant, Spirale. Il y a des images cauchemardesque autour de cette idée qu'on ne soupçonnait même pas. Il va prendre justement une idée et il va la décliner à chaque fois de la façon la plus pas gore, mais évocatrice possible. Il y a des visions de pur cauchemar. Moi, j'ai fait des cauchemars de spirale, vraiment, autour de cette idée, autour de ce motif, voilà, inspiré des récits de Junji Ito ou en freestyle. C'est quelque chose de très puissant et avec des images qui renvoient au pire des illustrations qu'on peut voir de l'Eroguro ou même de l'horreur japonaise, vraiment, mais avec un ton unique, avec une tristesse, une mélancolie qui s'installe sur le récit comme une chape de plomb de plus en plus pesante. C'est une puissance rare, moi, ça m'a renversé, ce manga.
Bah tout pareil. Enfin, je pense que je n'ai rien à ajouter à ça. Non, mais comme je disais, ça avait été un choc et malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse en dire autant.
Alors, on va pas parler d'animé tout de suite.
Non.
Il y a, une première adaptation en l'an 2000 par un artiste qui s'appelle Igoshinsky, donc adaptation japonaise. Alors, c'est un film qui, malheureusement, a beaucoup traîné, que ce soit en édition physique ou sur le net, dans des copies très ternes, qui rendent pas forcément justice au travail assez étonnant de Igoshinsky sur la couleur verte, en particulier. C'est vraiment la grosse dominante de cette adaptation. Et c'est une adaptation, pour l'avoir revu là il y a 2 jours, j'adorais le film quand il est sorti, j'avais 20 ans, j'étais psychédélique, et c'était parfait. C'était le film parfait pour le fan d'horreur et de psychédélisme. Il y a plein d'effets qu'on vieillit, il y a un parti pris qui est présent hein, dans l'œuvre de Junji Ito du grotesque, mais là c'est beaucoup trop dominant en fait. Par rapport à ce qui est suggéré dans Spiral, dans le manga original. Là, c'est vraiment c'est mi-inquiétant, mi-bouffonnerie, avec des effets quand même qui sont assez impressionnants. Il y a aussi le truc malheureux, il y a l'effet un peu adaptation d'Akira. C'est-à-dire que ça s'arrête au moment où que ça continue, parce que tu sais ce qui se passe derrière. Mais c'est quand même un objet suffisamment étrange, atypique, même dans le paysage, moi, je trouve, de la J-Horror, pour le découvrir. Je sais pas. Tu seras peut-être moins magnanime.
Non, moi c'est pareil. Enfin, quand j'ai lu le manga à l'époque, j'avais vu le film. Je l'ai revu quand j'ai relu, du coup, l'intégrale. D'ailleurs, oui, le film existe maintenant en Blu-ray import, mais je crois que de souvenir, là je ne l'ai pas revu pour le coup, mais même la copie HD était un peu décevante. C'est toujours mieux que les copies d'avant, mais c'est pas non plus le summum, à croire qu'il y a vraiment une malédiction. Et en fait, moi j'avais évidemment oublié le film quand j'ai relu le manga et que je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre parce que, enfin, il a adapté, je pense, que le premier tome et il a dû en tirer peut-être les moments les moins impressionnants. Donc le peu qu'il essaye d'illustrer, il le fait plutôt bien. Il faut dire que c'est extrêmement casse-gueule, mais ça, je vais revenir dessus. Mais... et oui, en effet, comme tu dis, un ton, une espèce d'humour random. Alors, on pourrait dire que c'est un truc un peu à la Obayashi, mais là, c'est un peu étrange. Je sais pas trop ce que ça vient faire. Et en effet, ça se termine une fin complètement ouverte, en mode, le film est pas... T'as l'impression de voir un film inachevé. Le truc, c'est que là où j'ai tendance à réhabiliter le film, c'est bon, déjà, on s'est farci l'anime, déjà, et c'est suffisante. La deuxième chose, c'est que je pense que Junji Ito, en live, c'est une très mauvaise idée. Je pense pas, c'est très très difficile. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Il y a eu surtout Tomie, mais je pense que Tomie, c'est un truc. Je pense que c'est le plus facile à adapter. Moi, j'ai vu un ou deux films. Enfin, moi, j'aime pas Tomie en général. Je trouve ça extrêmement répétitif. Et du coup, c'est vrai que l'adapter, c'est pas vraiment le truc le plus casse-gueule. Il y a eu d'autres tentatives que je n'ai pas vues. Et en fait, en anime, ça pourrait mieux passer. Et en fait, pas franchement, parce que... pas forcément, je sais plus parler, parce que y a eu 2 séries d'anthologies, dont une qui est sortie sur Netflix l'année dernière, et je les trouve honnêtes, mais sans éclat, où on a vraiment... déjà, c'est en couleur, il y a un côté un peu cheap, ou alors c'est l'histoire qui sont adaptées, qui sont pas très intéressantes. Et il y a eu aussi Gio, mais c'était une catastrophe absolue. Et d'ailleurs, justement, qui allait à l'encontre de ce que je disais. C'est-à-dire que l'univers de Junji Ito est généralement très chaste. Et là, à l'inverse, c'est étrangement orni. Et c'est très bizarre. On a l'impression de voir quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Je préfère en conclure qu'en fait, on ne devrait pas trop y toucher. Surtout que, en généralement, on passe à la couleur. Et je trouve que déjà, c'est une forme de trahison. Parce que Junji Ito... Alors, tous les mangakas, c'est du noir et blanc, et c'est une tradition, mais j'ai toujours l'impression que chez Junji Ito, ça ne peut être que comme ça. J'ai vraiment la sensation que le noir et blanc, ça coule de source, en fait, dans son univers, dans son esthétique. Et même si, dans certaines éditions, on a, en effet, des planches qui sont en couleur, pour ouvrir les mangas, même si ça reste joli, je pars vraiment du principe que je l'imagine pas autrement qu'en noir et blanc. Ce qui est du coup le choix de l'anime. Mais bon.
Bon, il faut y aller, hein.
Il faut y aller, oui.
Alors, c'est un projet quand même, cette adaptation en anime de Uzumaki, Spiral, qui traîne depuis 5 ans, qui a été annoncé il y a 5 ans. Alors, quand j'ai vu passer la news, j'ai dit, mais oui, très bonne idée, d'autant qu'en plus était déjà attaché au projet Colin Stetson. Colin Stetson, c'est un musicien que j'ai eu la grande chance de voir au Transmusical de Rennes il y a plus de 10 ans, et qui arrive avec son saxophone, qui a l'air de pas payer de mine, et qui vous embarque mais comme rarement j'ai été embarqué dans un concert. J'étais vraiment mais en mode David Lynch, Lost Highway, tu vois quoi. C'était vraiment ça, quoi. Et ce musicien génial, Colin Stetson, fait pas mal de bandes originales de films depuis quelques années, et notamment dans le domaine du cinéma d'horreur. C'est lui qui a fait la bande-son de Hereditary de Ari Aster, c'est lui qui a fait Color Out of Space de Richard Stanley. Alors, le Texas Chainsaw Massacre de 2022 aussi, The Menu.
Je ne le savais pas du tout, et je préférais ne pas le savoir.
Écoute, voilà. Et aussi un film, alors, qui n'est pas sorti, qui était passé au PIF et à l'Hallucination Collective aussi, qui s'appelle Wij, W-I-J, film belgo-hollandais de René Heller. N'allez pas voir L'Amour Fou, c'est dure 2h40, c'est de la merde. Regardez Wij. Voilà, c'est...
L'amour ouf.
Ouais, n'allez pas voir ça. N'allez pas voir ça. Il y a un teaser de quelques secondes. Justement, une animation très rudimentaire, très sommaire, en noir et blanc, avec un solo de saxophone de Colin Stetson, qui paraît il y a de ça 2-3 ans. Je me dis, mais oui, mais ça va être super, mais ça va être génial. Et puis ça arrive. Et puis ça arrive, et alors personne ne comprend ce qui se passe. Personne ne comprend ce qui se passe. Donc c'est une collaboration entre le studio d'animation japonais Production IG USA et Adult Swim. Donc la chaîne qui produit quand même énormément de choses, en fait. C'est une branche de Adult Swim, William Street, mais ça passe sur Adult Swim. Donc cette chaîne qui propose beaucoup d'animations pour adultes, qui produit aussi des cours, des films, parfois. Donc ça partait sous de bons auspices. Le premier épisode arrive et la joie est là quand même, Jérémy.
Totalement. là, je viens de revérifier et le premier teaser, mais qui je pense en effet ne montrait pas grand-chose, date de 2019.
Ah, 2019.
Et ensuite, d'accord. Oui, mais après, il y a eu celui où on voyait un peu plus et celui-là datait de 2022. Mais ouais. Voilà, en tout cas, c'est un truc qui date depuis un moment. Moi, j'avais abandonné l'idée de voir cette chose. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était un mirage. On t'avait annoncé un truc et chaque année, il y avait un running gag en mode « Ah, ça va arriver !» Mais je disais « Mais non, on verra jamais cette chose. » Et en effet, il y a quelques mois, on te dit « Ah bah finalement, ça va atterrir sur HBO Max, tout va bien. » Généralement, tout le monde était relativement heureux d'une telle nouvelle. Moi, j'étais un peu sceptique. Parce que j'avais peur, si je savais, mon Dieu, si j'avais su, j'avais peur que ce soit quelque chose, alors oui, voilà, le teaser noir et blanc, tout ça, mais j'avais peur que ce soit quelque chose de très littéral, un petit peu comme les animes précédents, c'est-à-dire, voilà, bon, on adapte case après case, je me suis dit, ouais, mais ce sera pas mal, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, autant lire le manga, peut-être. Et en effet, le premier épisode, c'est quand même plus que ça, c'est-à-dire que... Oui, c'est très fidèle. Voilà, le noir et blanc, majestueux, tout ce que tu veux. Mais là où il y a une grande différence, c'est qu'ils ne sont pas contentés, pour moi, d'animer les cases. J'ai eu vraiment la sensation qu'ils les faisaient respirer. Il y a vraiment quelque chose dans l'animation, dans la retranscription de l'atmosphère, de cette petite ville côtière, avec le vent qui souffle, toutes les scènes de body horror où les personnages sont... extrêmement expressif, il y a un mélange de 2D et de 3D qui fonctionne à merveille, d'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de motion capture, c'est au-delà en fait de toutes les espérances, et en effet Colin Stetson qui est à côté s'excite, et tu te dis, bon bah finalement non, en fait j'aurais dû fermer ma gueule, et puis, ouais, la seule chose qui était un peu étrange c'était le générique, il n'y a pas vraiment de générique, disons qu'il y a un titrage, tu te dis, ouais, c'est un peu cheapos, tu te dis c'est un peu bizarre, on se croirait au début des années 2000, quand on tentait des choses, voilà. Bon, et tu te dis, c'est pas très grave, vu la suite des événements. Puis arrive le deuxième épisode. Alors, moi, pour être vraiment très très franc, quand je l'ai vu, je n'ai pas vu tout de suite le problème, c'est-à-dire que si je le voyais, mais sans le voir, c'est-à-dire que au début, tu n'es pas psychologiquement prêt, donc du coup, tu fais semblant de rien voir. Donc, je me dis, c'est bizarre, l'image est pas très bien définie, peut-être que c'est ma télé, peut-être, y a un truc qui va pas, les personnages sont un peu statiques, il y a des effets un peu bizarres. Tu te dis, mais il y avait ça dans le premier épisode. Il y avait des flous, il y avait des... Et il y a un autre truc aussi qui est assez choquant. Mais bon, ça, tu essayes, c'est pareil, c'est le déni. Hein. C'est très, très fort, le déni. Le principe de la série, c'est de contracter tous les chapitres du Uzumaki. Je ne sais plus combien il y en a exactement, mais je pense qu'on dépasse la dizaine. Oui. En 4 épisodes de 20 minutes. C'est un peu cavalier, disons ça gentiment. Dans le premier épisode, ça va. Dans le deuxième épisode, tu sens qu'il faut superposer les histoires les unes après les autres. Et il y a des moments, tu te dis, bon, c'est un peu...
Bah, la chronologie fait pas trop de sens, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont bousculé la chronologie, ils ont mélangé des segments et des tomes entre eux. Et parfois, ça fait sens, parfois, pas du tout. Sur la dérive de la mère de Shuichi, par exemple, ça a du sens que ce soit au début, en fait. Justement, c'est un peu ce qui te fait entrer, ce qui te fait basculer dans le côté vraiment très, très, très sombre de cette histoire. Enfin, c'était pas léger avant, hein, mais là, vraiment, tu dis, oh putain, là, on passe un cap de non-retour. Et ça arrive trop tard, en fait, dans la chronologie là, des épisodes. Ça arrive dans le troisième, je crois. Mais le gros gap de qualité, moi, je l'ai ressenti assez. Alors, sur un truc précis, parce qu'effectivement, ça fait illusion. Ils ont comblé la misère, on va dire, sur la plupart des scènes, mais il y a des scènes où ça marche pas. Et en particulier, il y a un segment où il y a un personnage qui se transforme en escargot.
Ah, c'est marrant, j'aurais pas pensé à cette scène, tu vois.
Moi, c'est le premier truc qui m'a frappé parce qu'il répète la même scène, c'est-à-dire qu'il arrive en retard à l'école et c'est un personnage qui est tout gluant, qui vient à l'école que quand il pleut, donc il arrive trempé, mais qui en même temps est gluant, bah, escargot, quoi. Et autant, je me disais, putain, il y avait un détail dans le premier épisode sur ce personnage-là, et là, tu le vois arriver, bah, c'est le souci du détail n'y est plus vraiment. Tu veux vraiment un truc. Et ce truc était très inquiétant dans le premier. Là, ça devient une espèce de gag, en fait. Ça devient Uzumaki, le film de Higuchinsky, mais en raté, en plus. En moche, voilà. Et t'as des scènes où ça ne marche pas. Et c'est terrible, parce que c'est dans ce deuxième épisode que t'as deux des histoires qui sont peut-être les plus emblématiques et les plus reprises, et que Higuchinsky a tenté d'adapter comme il a pu. C'est les deux amants, qui vont finir en serpent enlacés l'un dans l'autre, avec leur corps vraiment physiquement qui s'enlacent, et cette histoire des cheveux qui se bouclent, oui, qui se transforment en spirale. Et ça, c'est un truc, c'était peut-être le truc le plus réussi dans le film de Higuchinsky, et c'était assez fou à voir à l'écran, et là c'est raté, quoi. Là, c'est raté. T'as quelques, pour le coup, quelques plans qui fonctionnent, mais c'est du copier-coller du manga. En fait, c'est quand elle est chez la coiffeuse et qu'elle se lève et voilà, et tout le reste. Ça va pas, quoi.
Moi, je pensais à la fameuse scène de, parce qu'elle a été repostée ensuite après
sur la plage.
La fameuse scène de la plage.
Ouais, ouais.
Où tu vois les personnages quand même qui glissent sur le sol, comme dans un épisode, comme un dessin animé d'Hanna-Barbera, quoi. Et qui sont rigides comme des pantins, tu vois que le trait, parfois, il y a des plans, il y a des gens qui ont fait des screens, donc tu vois qu'il y a des endroits où le crayon n'a pas été gommé, enfin c'est... Tu te dis, mais quel niveau de catastrophe, en fait. Et le pire, c'est que moi, à partir de là, je me suis dit, ok, ça va plus. Et en effet, quand tu regardes le générique de fin, tu te rends compte que l'équipe n'est pas la même, qu'on est passé d'une équipe japonaise à une équipe manifestement chinoise, hongkongaise, je ne sais pas. Et là, tu te poses des questions. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui a pu se passer ? Sachant que c'est la même équipe après qui revient pour les trois derniers épisodes. Le troisième épisode, moi, j'avais pas d'espoir. Moi, je l'ai trouvé personnellement encore pire que le deuxième. Ou alors là, l'enchaînement des scénettes, ça ne va plus.
C'est à temps qu'il y a le mec sur le ressort, là ?
Oui. Mais il y a ça, il y a tout le segment dans l'hôpital. Mais ouais. Je crois que... S'il fallait une scène, un exemple pour voir à quel point tout cela est un naufrage, en effet, ce qui concerne le personnage de Yamaguchi, donc dans le livre, il y a ce personnage, d'ailleurs, qu'on voit dans le film, mais du coup, l'histoire n'a pas été terminée, qui est une espèce de harceleur, farceur à la con, qui finit sous les roues d'une voiture, qu'on enterre parce qu'on ne peut plus brûler les corps à cause de la malédiction de la spirale, et qui revient sous la forme d'un mort-vivant, dans une scène qui, personnellement, moi, dans le bouquin, m'avait... terrifié, ça m'avait mis dans une horreur absolue. Et dans l'anime, le personnage, on le voit dans le deuxième épisode, il revient, mais en fait, alors qu'il y a déjà autre chose qui est en train de se passer, mais il revient d'une manière, enfin, j'ai l'impression qu'on m'avait craché au visage, quoi. La scène est très drôle, involontairement, malheureusement, parce que les réactions du personnage, la manière dont il est dessiné, la manière dont il est animé, tout Il n'y a rien qui va. J'ai revu cette scène 20 fois d'affilée. Je ne comprends pas. Et j'étais assez étonné parce que je voyais des gens qui disaient « Oh, mais dans le bouquin, c'était drôle aussi. » J'étais genre « Non, je crois que... »
Chacun sa vision de l'humour. Il y a des gens qui trouvent Terrifier drôle, par exemple.
Oui, bon.
On en reparlera.
Je ne dirai rien. Mais je veux dire, clairement, dans le bouquin, il y a. C'est absolument pas drôle du tout.
Non,
mais
non,
dans,
c'est
le, dans l'anime, c'est amené d'une manière, mais c'est vraiment. Bon, écoutez, on va le foutre là parce que. On n'a pas le choix. Et le quatrième épisode est très étrange. Alors, personnellement, j'ai eu du mal aussi parce que c'est pas la partie que je préfère. Mais le quatrième épisode est très étrange parce que, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai revu quand même. J'ai l'impression qu'il y a des plans où ça va.
Oui.
Et des plans pas du tout.
Oui. C'est le mégalopolis de l'ensemble.
Voilà. Et pendant tout l'épisode, je me suis posé la question, je me suis dit, attends. Elle est revenue l'équipe japonaise ou...
Ben non, mais c'est, après c'est particulier parce que c'est le plus baroque, on va dire. Et moi, j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient « Oui, mais en même temps, c'est ce côté rudimentaire de l'animation, ça amène un truc. » Et non, quand tu vois les scènes qu'on a évoquées, non, ça ne va pas. Tu vois
non.
Que,
non,
tu
non,
vois
non,
que
non.
Ce n'était pas l'intention. Si c'était l'intention, c'est très étrange, tu vois. Mais là, je me suis dit « Ouais, ok, là ça peut passer, si tu veux. » Mais t'as quand même 2-3 moments de ce bull artistique assez sévère, quoi.
Ah bah, il y a ce fameux moment qui pareil, hein, beaucoup circulé sur X, où tu vois un personnage qui chute, et en fait, on
oui
dirait un morceau de carton.
Oui, voilà,
c'est ça. Bon, c'est... Oui, c'est vrai que si tu es dans le déni, tu peux dire ça a une vibe de dessin animé des années 70. mais le problème, c'est que, voilà, revoyez l'épisode 1 et la vibe n'est pas la même du tout. Enfin, je veux dire, dans l'épisode 1, t'as des scènes, à un moment donné, il y a une scène où tu vois des personnages en classe. Chaque personnage est animé différemment. Ça, je pense que c'est parce qu'il y avait de la motion capture. Tu ne reverras plus jamais ça après. Mais dans l'épisode 4, c'est très étrange parce qu'il y a des plans où on dirait qu'ils se réadaptent. Et des plans où tu retrouves des pantins de bois qui essaient tant bien que mal de... En plus, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment des moments très casse-gueule, comme le truc des tornades. Enfin, c'est compliqué aussi comme passage. Le truc, c'est que du coup, actuellement, en l'état des choses, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Il y a une légende. Il y a une légende.
légende.
Il y aurait un producteur de la série qui aurait posté une explication. Enfin, une explication.
Non,
vraiment.
Non, c'est pas d'explication.
Mais qu'en gros, voilà, et le truc tourne, il l'a effacé depuis, mais le truc tourne, il y a eu des screens, évidemment. Il explique, voilà, il y avait 3 options. On s'est fait niquer par le studio, et il a fallu trouver une solution. Et voilà, donc on avait 3 options. Soit on abandonnait, soit on passait juste le premier, qui correspondait vraiment à notre vision, et on disait que c'était inachevé. Soit on passait tout avec les défauts, et tant pis pour honorer le travail qui a été fait, quoi. Et il a choisi la pire option, c'est-à-dire la troisième. Voilà, ce qui est un choix incompréhensible. Ce qui est, incompréhensible, non, parce qu'il doit y avoir effectivement des enjeux commerciaux, etc. Donc, mais c'est, voilà, d'un point de vue artistique, d'un autre point de vue critique, c'était forcément la pire option. Est-ce que ce truc peut être corroboré? Ben, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a eu des problèmes de production. C'est évident, en fait.
C'est dur à déterminer. C'est pas comme ça en plein dedans. On suppose que possiblement le Covid a peut-être joué un rôle dedans. Mais le problème, c'est que moi, avant de lire du coup le message du prod qui je trouve n'avance pas beaucoup sur ce qui s'est passé, j'avais 2 suppositions, c'est-à-dire que soit le premier épisode avait été fait dans les règles, que après il y a eu chamboulement et que ils ont eu en effet cette option de tout terminer en catastrophe, et que du coup tout ça a été fait depuis longtemps, mais que ils l'ont gardé dans un tiroir et qu'ils se sont dit bon bah il y a un moment donné on va quand même le sortir, ou alors que tout ça a été fait en effet d'une traite pour que ça puisse sortir. Enfin, en gros, moi, mon hypothèse, c'est juste que ça a été fait depuis un moment, mais ils en avaient honte, et ça a été fait récemment, mais en catastrophe. Ce qui est très étrange, c'est pourquoi, en fait, en 5 ans, pourquoi ça a été fait en catastrophe? C'est ça qui est très curieux. Pourquoi un changement d'équipe? Les gens sont morts, les gens ont été virés, c'est ça qui est assez dingue, en fait. Je suppose qu'on aura la réponse, mais je pense qu'on l'aura pas tout de suite, parce que la série vient de sortir, donc c'est compliqué de travailler sur une série et d'attendre qu'elle sorte pour dire bah écoutez, on a fait de la merde. Mais on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire qu'on a potentiellement déjà vu des séries qui se cassaient la gueule d'une saison à une autre, au sein d'une même saison, enfin du même, parce que c'est une mini-série, c'est un peu du jamais vu. C'est quand même un cas d'école assez incroyable.
Bah, je vois beaucoup passer de gens qui se plaignent de l'animation dans des séries animées, mais dont c'est la vocation en fait d'être produite limite à un rythme stakhanoviste et avec voilà toutes les méthodes pour faire des animés qui sont optimisées depuis l'époque Tezuka, mais maintenant à un niveau mais industriel jamais vu. Là, je voyais des gens qui râlaient sur Blue Lock ou sur Tower of God, tu vois, par exemple. Ou Uzumaki, c'est un projet à part, en fait, comme on dit, c'est quelque chose qui a été annoncé depuis 5 ans, sur une œuvre finie, qui en plus n'a pas une amplitude de dingue, alors 4 épisodes, effectivement, c'est un peu raide, mais oui, c'est incompréhensible, c'est un truc, voilà, bah c'est plus que comparer ça aux méthodes de production de l'animation japonaise, moi j'ai plus, ça m'évoque plus les gros blockbusters AAA très attendus depuis trop longtemps de l'industrie du jeu vidéo et qu'on doit sortir à un moment en fait. Et c'est rushé parce que tout n'est pas fait, voilà, je ne peux pas comparer ça à Cyberpunk, mais moi je vois plus ça comme ça en fait, en termes de trucs, et il y aura, sachant qu'il n'y aura pas de patch pour récupérer Uzumaki.
Non, c'est bien ça le problème.
Donc je sais pas, on est dans une logique, ouais, moi on s'est fait débordé par l'industriel, on trouve des vagues justifications, on poste des messages sur les réseaux pour essayer de lancer des rumeurs ou se dédouaner ou je ne sais quoi, mais c'est très triste au final parce que en plus c'est ça qui est horrible. Ça aurait été raté de A à Z. avec du saxophone de Colin partout, tu te dis bon, bah voilà, c'est tant pis, on y a cru, c'est limite c'est de notre faute. Mais voilà, là on voit en plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit que ça aurait pu être quelque chose de complètement fou. Et derrière, on te crache à la gueule, vraiment. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me fait.
Bah, je préfère quand même l'option d'avoir l'entrevue en fait de ce que ça aurait pu être que un truc complètement raté de A à Z. Mais
ouais,
c'est vrai que c'est. Bon, c'est dans les deux cas.
Je trouve ça pire, quoi.
Ah ouais. Oui, il y a un truc un peu. Tu t'y croyais, et ben en fait non. Voilà.
Tiens, regarde, bah tiens. Voilà. Mange de la merde maintenant. Bah ok.
Mais ça confirme en tout cas qu'il y a une malédiction de Jujito sur le fait que bah voilà, l'adapter, c'est quand même un truc qui est très compliqué. Peut-être que j'espère. Moi, j'ai envie de dire que ça peut-être ça donnera des leçons en mode voilà, ne le faites plus en fait. Faites-le bien. Je continue à trouver quand même situation très curieuse et... parce que le mystère de la spirale n'est pas là justement dans...
franchement ça ajoute une pierre à l'édifice limite, tu vois, sur la malédiction, sur tout ça, quoi. Ouais. Faites-vous votre propre avis.
Faites-vous votre propre avis en lisant le manga.
c'est une expérience artistique de 2024. Voilà, oui, lisez le manga d'abord, et qui en même temps est tellement 2024, tu vois, à plein d'égards, à plein d'aspects, qui a encore cette aura de mystère sur sa confection, qui sera sûrement bientôt levée, mais voilà, en attendant, il y a une proposition esthétique qui se casse la gueule, mais spectaculairement. C'est vraiment ce mème du dessin de cheval qui décline au fur et à mesure, mais voilà, avec quand même un petit coup de peps à la fin, parce qu'il y a vraiment des visions cauchemardesques et horrifiques.
Est-ce que ce serait pas une parabole du monde d'après ?
Sûrement, tout à fait. C'est les bonnes résolutions. Le premier épisode, c'est Macron qui nous regarde droit dans les yeux et qui dit franchement, ça a changé mon rapport au monde qui se passe là. Voilà, on va changer, on va réfléchir à la société, et puis derrière ils te font ouais, non. On va faire voilà. De la merde, mais alors deux fois pire. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy, tout de même.
Ben, je t'en prie.
Et on se retrouve bientôt pour d'autres petits plaisirs en dents de scie, disons.
Tout à fait. À bientôt.
À bientôt.